crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Quand on tire, on raconte pas sa vie.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
J'essaie d'intervenir incessamment, un peu comme le roquet.
This is a revolution sure shot.
Why I walk and talk this way?
There's a war going on outside.
Say what?
CFM.
Bonsoir à tous.
Salut.
C'est commencé.
Salut.
On arrête de discuter.
Ouais, voilà. On est en train de parler de bière aromatisée au miel avec Romain. Parce que Romain est là.
Avec qui?
Avec
ah,
Romain.
Ah, mais oh, c'est lui. Mais je le reconnaissais pas. Salut Romain.
Bonjour.
J'allais dire bonjour monsieur.
Non, ce coup-ci c'est le vrai.
Ouais, c'est le vrai Romain.
Ça fait des années qu'on s'est pas vu Romain. Dis-moi.
Alors
voilà, je me rappelle plus la dernière fois. Oui.
Mais ça y est, je suis arrivé au milieu de CFM.
Dis donc. Bon, le changer. Ouais. Donc outre Romain et Benjamin, nous avons avec nous aussi Miss Roquette, Amanda, moi-même Guillaume et une invitée, Katia. Bonjour.
Bonsoir.
Katia, salut. Katia, donc t'étais bénévole à Regards sur l'Exil.
C'est ça.
Et Miss Roquette, t'as repéré à la dernière soirée.
Oui, un talent de folie, elle a embrasé la foule.
Au moins.
Avec son texte qu'elle acceptait de bien vouloir venir faire ici.
Très bien, bon, eh ben, on va voir ça tout à l'heure. Il nous l'a fallait, il nous l'a fallait pour les roquets rouges. Alors, comme il y a beaucoup de monde aujourd'hui, je vais faire vite, hein, mon édito. Donc, je me suis dit que, justement, puisqu'on est nombreux, je ferai une chronique courte, car comme on est de, quand on est de gauche et démocrate, les grandes gueules n'ont pas plus de pouvoir que les autres. Ce n'est pas parce qu'on parle fort ou longtemps qu'on a forcément raison. Je m'autodiscipline donc, et je lance ce petit chrono pour me rappeler que ma chronique chronométrée ne fait qu'une criante et cruelle page. Qui l'eût cru ?
Dont un paragraphe absolument inutile que tu viens de prendre.
C'est toujours ça, c'est mes introductions. Si vous connaissez un peu les roquets rouges, vous vous doutez bien que nous nous rallions au mot d'ordre de solidarité suite aux attentats de Paris. Je suis en terrasse. Sauf que nous l'adaptons aux conditions locales, à savoir je suis au comptoir, à côté du radiateur. Bien entendu, c'est un devoir pour nous de continuer à faire la fête, boire de l'alcool et vénérer tout ce qui est cochon, gastronomiquement ou sexuellement. Mais si vous connaissez mieux les roquets, vous savez aussi que nous n'opposerons pas à faire la fête et réfléchir. Les canons que nous boirons seront à la santé des Parisiens, mais aussi des Syriens, des Irakiens, des Libanais, des Maliens, des Turcs, des Palestiniens, des Nigérians, des Kenyans, etc. Ça va en faire des coups à boire, oui. Car notre solidarité est internationale. Évidemment, en tant que Français râleurs et gauchistes contestataires, nous n'acceptons pas l'état d'urgence qui va permettre de faire passer des mesures impopulaires à une population en état de choc. On ne trinquera certainement pas aux élus du Front de Gauche, honte à eux qui ont voté avec la droite et l'extrême droite pour sa prolongation de 3 mois. Ils citent Jaurès à longueur de discours, mais le jour où il faut être Jaurès, il n'y a plus personne. Là, j'imitais Jaurès, mais en fait, personne ne l'a entendu.
Si, c'est bien. Katia valide.
Merci.
Oui, je suis invitée, moi je valide tout.
Tu reviens quand tu veux, Katia. Je suis pourtant également sceptique quant au slogan d'une partie de l'extrême gauche, vos guerres, nos morts. Ceci expliquerait que les attentats islamistes sont des réponses aux interventions occidentales au Moyen-Orient. Nos camarades ont raison sur l'analyse à long terme de la situation, mais restent paralysés pour trouver des réponses politiques, pratiques et immédiates. Les trous de balles de Daesh ne se contentent pas de réagir, ils agissent et sont responsables de leurs actes. Les ennemis de nos ennemis ne sont pas forcément nos amis, tout comme nos nouveaux ennemis ne font pas de nos anciens ennemis de nos nouveaux amis. Vous suivez, hein. Enfin, en tout cas.
On s'accroche.
Voilà. Il faut donc ne pas hésiter à dire que les islamistes sont aussi nos ennemis. Que pouvons-nous faire alors en conclusion provisoire? Face à la montée des réactionnaires religieux, nationalistes et ou économiques, il est grand temps de serrer les rangs et pour cela il faut reconnaître ses amis, les gens de son camp, même si on n'est pas d'accord sur quelques phrases de programme. Popularisons nos principes de démocratie sociale, de laïcité, d'antiracisme, notamment dans les quartiers déshérités. En avons-nous les forces? Oui. Si on arrête d'être con, car le temps presse. Vous entendez le chrono ? Il n'est pas que pour moi, il est pour vous aussi. Aujourd'hui, nous allons donc entendre Katia revenir sur Regards sur l'Exil. Benjamin nous parlera de foot, hein, avec Benzema, il a des révélations à nous faire dessus. Romain nous parlera de sécurité. Miss Roquette parlera quand elle voudra. Et Amanda terminera avec du Green Friday. C'est ça.
Le vendredi vert.
En mode suivi de
vendredi
Green Friday.
Voilà. Et en attendant, puisque je vois, vous n'avez aucun commentaire à faire, c'est très bien. Nous allons écouter.
Non, je suis
un petit...
tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit.
Voilà, merci. Mais...
Ouais. Ça valait le coup de commenter ça.
Non, mais ça, je veux bien. Oui, c'est
même l'imitation de Jean Jaurès, ça passe.
Voilà.
Oui.
Eh bien, une petite chanson de résistance de quelqu'un qui n'était pas très résistant, Maurice Chevalier.
En sortant du 30 et 40, je ne possédais plus un radis de l'héritage de ma tante. Un autre que moi se serait dit, je m'en vais me faire sauter la cervelle, me suicider d'un coup de couteau, m'empoisonner, me fiche à l'eau, enfin des morts bien naturelles. Moi voulant finir en gaieté, je me suis tué à répéter. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères. Tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi, sur terre, faut jamais s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Je rentre à Paris, mais mon notaire m'annonce votre père plein d'attention, vous colle un conseil judiciaire et 25 louis par mois de pension. Il ajoute, je ne vois plus personne dont vous puissiez être héritier. Faut travailler, prendre un métier, c'est le conseil que je vous donne. Je lui dis, comment vous voudriez que je vole le pain d'un ouvrier? Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères. Tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi, sur terre, faut jamais s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Dans la vie, faut pas en faire.
Toi, tu ne t'en fais pas.
Ces petites misères seront passagères. Tout ça s'arrangera.
Tu n'as pas un caractère à te faire du tracas.
Oh, crois-moi, sur terre, faut jamais s'en faire.
Toi, tu ne t'en fais pas.
Non, je ne m'en fais pas.
Les roquets rouges, ils crient, ils mordent et ils s'enfuient. Du roque et du rouge.
Et nous revoilà. Du coup, c'est le moment de la chronique de Katia. Mais avant ça, on va peut-être revenir un petit peu
alors, sur le contexte,
tout à fait. Donc, avec tes copains et copines de Regards sur l'exil, vous avez organisé un super festoche.
Merci.
Moi, j'y étais. Je trouve ça super. Tu peux nous en parler un peu plus rapidement?
Ouais, c'était la troisième édition de Regards sur l'exil, donc qui se déroule en général un mois, là, en octobre-novembre. Donc cette année, on a commencé par une journée avec des scolaires. Donc on a accueilli trois classes dont l'objectif c'est un peu de déconstruire les idées reçues autour des migrations et des migrants. Donc on a plein de supports avec les scolaires et on a toute une journée réservée pour eux. Ensuite il y a eu une soirée au CRIL avec la projection d'un film qui s'appelait Chantia, un blind test à thème avec uniquement de la musique sur le thème des étrangers, des migrants, des réfugiés. Et puis la dernière soirée de clôture au club avec la projection d'un film, Playground. Vous notez l'anglais, hein, Playground.
C'est mieux que celui de Guillaume.
Merci. Un débat animé par un représentant de la CIMAD qui était venu tout spécialement de Toulouse et une soirée concert avec quatre groupes. Voilà, des prises de parole, des expos, des infos.
Et donc un magnifique discours, paraît-il.
Ouais. Donc qui résonne avec l'actualité de ces derniers temps et puis toutes les horreurs qu'on peut voir passer sur les réseaux sociaux et pour des prises de parole de certains politiques auxquelles tu réponds magnifiquement. Je trouve, voilà. À mon avis, je te mets pas la pression.
C'est pour ça que tu l'as invité.
Voilà. C'est pour ça que je t'ai proposé de venir ici. Mais je te laisse faire ta chronique.
Ok. Donc c'était quelques mots pour une soirée de concert qui n'était pas une soirée de concert tout à fait comme les autres et qui ne se déroulait pas non plus à un moment tout à fait comme les autres. Regards sur l'exil a depuis plusieurs années l'envie de lutter contre les idées reçues qui touchent aux migrants et aux migrations. Et ces idées reçues, elles sont malheureusement nombreuses et anciennes. Par exemple, le pourcentage d'étrangers dans la population française explose, c'est faux. En 30 ans, il a diminué de 0,5%, il est passé de 6 et quelques à un peu moins de 6, à 5,8. Et dans le monde, la France occupe seulement la 80e position pour les pays qui ont un nombre d'étrangers important dans leur population. En Europe, c'est uniquement la 15e position. Un tiers de ces étrangers sont originaires de l'Union européenne, donc en fait, la part des étrangers dans la population française qui sont hors Union européenne, elle est finalement extrêmement minime. Une autre idée reçue, c'est celle qui dit que le nombre de demandes d'asile explose en France chaque année. C'est faux. En Europe, oui, mais en France, non. Depuis plusieurs dizaines d'années, on est toujours à plus ou moins 50 000 demandes par an, selon l'actualité internationale. Et quand on parle d'explosion, on compare toujours avec l'année 2007, qui est l'année où il y en a eu le moins. Jamais, par exemple, étonnamment avec 2003, qui est l'année où il y en a eu le plus. Et entre 2013 et 2014, il y a eu une diminution de 5% des demandes d'asile. C'est étonnant, on n'en a pas entendu parler. Il n'y a pas de horde, il n'y a pas d'invasion de réfugiés, de demandeurs d'asile qui frappent aux portes de la France. Obtenir l'asile est facile, c'est faux. C'est à peu près un demandeur d'asile sur quatre qui vont avoir le statut de réfugié. Les étrangers ont accès immédiatement aux droits sociaux en France. C'est faux.
Je confirme.
Merci. Pour les demandeurs d'asile, ils ont seulement droit à une allocation spécifique qui était jusque-là de 11 euros par adulte et par jour et elle diminue pour la plupart d'entre eux avec la nouvelle loi votée l'été dernier. Pour la plupart des autres étrangers, il faut casser une idée reçue énorme, celle de l'accès au RSA, qui n'est pas accessible dès l'entrée en France et pour tous. Il faut en premier être régularisé, c'est extrêmement compromis, et il faut être régularisé depuis plus de 5 ans. C'est assez étonnant, c'est une proposition politique qu'on a entendue récemment, le fait d'être régularisé depuis plus de 5 ans pour accéder au RSA. Mais en fait, elle existe déjà, c'est dire le populisme de certains représentants. Pour les allocations familiales, c'est pareil, il faut d'abord être régularisé, c'est assez compromis. Et pour la plupart des étrangers, c'est impossible parce qu'on leur demande, pour la plupart d'entre eux, que leur enfant soit né en France. Les étrangers coûtent cher à la France et les migrations coûtent cher au monde, c'est faux. La France, elle est bénéficiaire, les étrangers apportent plus en cotisations et en taxes que ce que d'autres coûtent en aide sociale. Et dans le monde, il faut savoir que les émigrés envoient plus d'aide financière dans leur pays que ce qu'apporte l'aide au développement. Et d'ailleurs, cette aide au développement, elle diminue en même temps qu'on oppresse les pays en voie de développement de contenir leur population. Cherchez l'erreur. Malheureusement, désormais, il y a une autre idée reçue contre laquelle il va falloir lutter avec force et avec humanité. C'est celle qui dit que, désormais, un réfugié serait un terroriste. Pour commencer, c'est faux. Et même si des actes étaient commis par des personnes qui se seraient fait passer pour des réfugiés. Faudrait-il alors condamner toute une catégorie de population, des peuples entiers, à porter la responsabilité des actes barbares de quelques hommes ? Demande-t-on à la population française dans son intégralité de porter la responsabilité des actes de ces meurtriers, de ces criminels, voire même de ces terroristes ? Non. Et nous en serions offensés, nous en serions outrés, nous en serions meurtris. Au nom du risque, est-ce que nous allons abandonner nos valeurs, notre humanisme, notre solidarité ? Allons-nous accepter sous les tirs de nous voir réduits dans notre réflexion, dans nos actions et dans nos valeurs ? Mais non, et au contraire, on nous attaque, relevons la tête. Affirmons-nous encore, encore plus. Affirmons ce qui est attaqué. Affirmons notre esprit critique, notre regard apaisé, le refus de la haine et de la violence, le mélange, les différences, la générosité, la fraternité. Cette fraternité que nous chantons tous depuis une semaine. Affirmons-la, faisons-la vivre et défendons-la, cette fraternité. Brandissons ces valeurs, bien plus haut encore que les drapeaux. Et unissons aussi nos pleurs et nos souffrances à celles de nos autres frères. Paris, le 13 novembre. 133 morts. Mali, 70 morts. Syrie, 200 morts par jour depuis plus de 4 ans. Kenya, 147 étudiants achevés dans une université. Méditerranée, plus de 3000 morts depuis janvier 2015 seulement. Un mort toutes les 2 heures. Plus de 20 000 depuis l'an 2000. Turquie, Liban, Algérie, Nigeria, Pakistan, Tchétchénie, Irak, Palestine. La liste serait trop longue des souffrances de civils en conséquence des barbaries de nos mondes. Alors en réponse, contestons toutes les barbaries, en ouvrant nos cœurs, en ouvrant nos portes à ceux qui fuient l'horreur et l'injustice, la faim et le désespoir. À ceux qui, chez eux, à ce jour, eux, n'ont pas la possibilité de relever la tête, de trouver une protection, de se réunir, de lutter, d'affirmer des valeurs, de parler à un micro de radio. À ceux dont les enfants sont affamés par les nantis de leur gouvernement et de nos mondes. Nous avons le devoir de le faire, mais nous avons aussi les moyens de le faire. Et puisque c'est aussi tout ça qu'on attaque, plus que jamais, il faut le faire. Fraternité. C'est envers mon voisin, envers le passant avec qui je partage un bout de trottoir, avec qui je fais la queue au magasin, quelle que soit son apparence, son statut, sa langue, sa couleur de peau, sa religion, son style. Sourire, considération, refus de la peur, c'est ça la fraternité. Fraternité aussi envers les arrivants. Parce que tout ça est lié, tout ça relève de valeurs communes, d'un projet de société cohérent, d'un humanisme général. fraternité envers ces arrivants qui, eux aussi, refusent l'horreur, avec eux aussi force et courage, et qui, eux aussi, cherchent la dignité et veulent relever la tête. Fraternité envers ces hommes, ces femmes, ces enfants, qui fuient aussi le terrorisme, mais aussi les grands terroristes du monde. Ah, parce que oui, on oublie de le dire souvent, mais il y a des terroristes qui tiennent les manettes, avec qui nous discutons, avec qui nous négocions, avec qui nous faisons commerce, à qui nous donnons des responsabilités dans des instances internationales. Fraternité, liberté, alors oui, défendons-la, mais offrons-la aussi à ceux qui viennent ici la chercher. Liberté, défendons-la dans des moments sombres et effrayants. Il faut être vigilant, vérifier, enquêter, surveiller, oui d'accord. Donnons les moyens aux professionnels de le faire. Mais ne nous transformons pas en justiciers de rue, en trieurs d'humains basés sur de rapides amalgames. Donnons des moyens de vigilance aux professionnels, oui, dans le cadre de comportements mesurés, réglementés, contrôlés, pour éviter l'arbitraire. Restons droits dans nos valeurs, défendons nos libertés, refusons les amalgames, refusons les atteintes à nos grands principes qui défendent une société de l'arbitraire et de la haine. Fraternité. Voilà le rôle que nous pouvons chacun mener. Voilà notre enjeu. Dans nos cœurs, dans nos mots, dans nos attitudes, dans nos actes, pourquoi pas dans nos engagements. Diffuser nos mots, nos valeurs. Voilà déjà ce que chacun de nous peut faire et ne doit pas abandonner. Occuper l'espace, le pays, nos rencontres, de nos mots, de nos valeurs, ne pas laisser dire. Occuper l'espace de cette fraternité que nous chantons. Et accueillir l'autre, ce n'est rien d'autre qu'une modalité de cette fraternité.
Merci Katia.
Merci.
Timides applaudissements.
Ouais,
moi personnellement, j'adore couper mes camarades, mais là, j'ai pas eu envie.
Et donc voilà, tu as passé ça devant les 400 personnes du club et effectivement,
et maintenant, il y avait devant les millions d'auditeurs des Rockeros.
Les 250 000 personnes.
Et ce sera la dernière fois.
Ah bon, oh, tu n'en sais rien. Tu vas peut-être être repéré par d'autres journalistes. Et oui, pareil. Et puis ça, tu as attiré l'attention de toute la foule à ce moment-là, hein, m'a-t-on dit.
Ben, tant mieux si le contenu de ce qui est dit a attiré l'attention. Ce qui est terrible, c'est que peut-être qu'on va pas tous s'engager activement, même si ça serait intéressant. Mais si déjà tous on laisse pas dire et on laisse pas faire, déjà c'est quelque chose qu'on peut tous faire.
Et si on défend cette valeur qu'on entend depuis qu'on est gamin, qu'on voit sur tous les frontons de mairie, liberté, égalité, fraternité, très souvent, liberté, ah oui, ça c'est ultra défendu. Égalité, ça commence à poser un peu plus problème parce que bon, ouais, je suis pour l'égalité de moi, mais les autres, bon, ça me concerne un peu moins. C'est fraternité, c'est vraiment la valeur qui est parent pauvre des trois.
On pourrait dire liberté, c'est la valeur de droite, égalité, c'est la valeur de gauche, et fraternité, bon, on s'en fout un peu, quoi.
C'est ça, elle est un peu oubliée, quoi. Oui. Donc, moi, ça m'a beaucoup plu que tu reviennes dessus comme ça.
On pourrait leur parler de la liberté avec ce qui se passe justement avec l'état d'urgence qui a empêché des rassemblements. Là aussi, on s'attaque à la liberté aussi.
Et puis, il s'est passé, là, on enregistre, vous savez comment ça se passe. Ouais. Mais donc, le samedi 28, était prévu une marche pour le climat qui n'aura pas lieu, car interdite. Par contre, vous pourrez aller dans les salles de concert ou à la terrasse des cafés ou au marché ou à la Géant faire vos courses sans aucun souci. Ouais, au nom de l'état d'urgence, on interdit les manifestations qui n'ont aucun lien avec les attentats, alors qu'on autorise, et tant mieux à la limite, hein, mais on autorise les lieux comparables à ceux qui ont été visés.
On a quand même le droit de rendre hommage aux victimes. Oui. Alors du coup, moi, je me tâtais si j'allais pas y aller samedi avec un panneau arrêtant de financer les bourreaux sortant du pétrole ou un truc comme ça, parce que ben c'est un hommage aux victimes.
Ouais, c'est compliqué pas, là. Il y a pas que le pétrole, quoi. Il y a l'armement.
Mine de rien,
c'est un sacré deal. On se rend pas compte à quel point c'est 400 milliards par an, 400 milliards d'armement. Le PIB de la France en économie, tu le comptes avec ou sans l'armement. C'est phénoménal, non seulement ça fournit du travail en amont, mais en armement aussi.
Bien sûr, c'est un des tenants et des aboutissants de ce qui se passe.
Quand il se pointe, Romain, t'es à fond, hein.
Non, mais là, c'est vrai que c'est grave.
T'as pas un crédit temps, hein. C'est pas parce que tu viens pas que t'as plus de temps la prochaine fois. Ça marche pas comme ça. On va écouter un peu de musique. T'as choisi une musique. Et qu'est-ce donc?
C'est Damien Saez qui n'a pas fait que Jeune et Con et qui a aussi fait Je suis un étranger.
Eh bien, on écoute ça.
Reste tout souffrance, les enfants de l'exil, les charters en portance, sauf politique quasi, les solidaires ici ont des œuvres de si. pas de roi financier et cynisme au sourire. Nous construisons des murs, tu construis l'avenir. Dans des villes d'enclaves, pas dans les métros. Sous le chant des esclaves, sous l'envol de l'oiseau. Je suis un étranger, l'orage est mon pays. Je n'ai pas de monnaie, l'euro est mon ami. Nos civilisations, toi les camps à Calais, nous les désillusions, toi le béton armé. Notre vieille culture, toi petite ouvrière des villes, nos réserves et cessures, toi l'enfer des bidonvilles. Nous les collaborants des Babylones en argent, nous les prostituants, toi l'œil des brindants, nous les voleurs de terre, toi fils des tyrannies, de nos pétrolifères, toi boire l'eau des pluies. Je suis un étranger, un étranger, tous fils de l'incendie. Dis pourquoi douce France, je ne vois qu'ignorance, des fascismes à outrance, pays de nos enfants. Nous sommes des étrangers, la terre est notre pays. Nous n'avons pas de monnaie, la route est notre ami.
Moi, président de la République, j'ai une très très...
Bah, disons, on peut le dire.
Ladies and gentlemen, we got it.
Je crois que c'est les bolcheviques.
Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
Et nous voilà partis instantanément.
Eh oui, bonjour. De retour.
Après la pause musicale.
Et
c'est au tour de Benjamin qui... Tu vas essayer d'étendre l'atmosphère ou pas? Bon, on verra bien. Allez.
Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais avant les événements tragiques du 13 novembre, ce qui faisait le cœur de l'actualité, ce dont tous les médias parlaient, c'était l'affaire de la sex tape de Mathieu Valbuena. Alors, je vous rappelle rapidement les faits, parce que peut-être vous avez oublié, c'était il n'y a pas si longtemps pourtant. On reprochait donc à Karim Benzema, coéquipier de Mathieu Valbuena en équipe de France, d'avoir servi d'intermédiaire pour un maître chanteur qui menaçait Valbuena, de diffuser une sextape de lui. Alors, c'était une petite affaire dont on se fout un peu, on est d'accord, mais qui faisait la une des journaux et qui, en tout cas, faisait provoquer des éditions spéciales à longueur de journée sur BFM TV et iTélé.
Un nouveau développement.
Voilà. Ah ouais. Est arrivé donc les tristes événements du 13 novembre et donc on a mis de côté l'affaire de la sex tape et au lieu de faire des éditions spéciales à longueur de journée sur le cas de ce Mathieu Valbuena qui fait des vidéos à poil avec sa copine et de Karim Benzema qui aurait joué les intermédiaires, on a fait des éditions spéciales sur les attentats.
Et donc, on regrette les histoires de cul des footballeurs. C'est ça qu'il nous dit, effectivement.
J'ai pas conclu ma chronique, vous allez voir. Je vous laisse en tirer les enseignements qui s'imposent.
Et Valbuena,
enfin, tu peux le dire, c'est parce que tu n'as pas écrit ta chronique qu'il n'y a pas de conclusion.
Non, plus. Non, mais enfin, voilà. Donc, on est, donc déjà, ça en dit long sur le traitement médiatique en général, où on accorde la même importance à une affaire de cul, dont tout le monde se tape. Sex tape. Ouais. Après.
Oh oh,
elle est pas écrite.
Surtout avec Benoît.
Et derrière, donc on fait les mêmes éditions, enfin le même format d'édition spéciale avec les bandeaux qui clignotent et tout sur les attentats d'abord, puis ensuite sur les alertes attentats à Bruxelles. Et maintenant, j'ai arrêté de regarder BFM depuis 2-3 jours, donc je sais pas sur quoi ils font leurs éditions spéciales, mais j'imagine que ça continue. Donc je me suis dit, quand les attentats ont eu lieu, je me suis dit, s'il y a un arabe en France qui va voir son quotidien un peu amélioré suite à ces événements, c'est bien Karim Benzema, qui s'en prenait plein la gueule à longueur d'édition spéciale de BFM, et qui aujourd'hui est oublié. Et vlati pas que arrive le classico qui avait lieu le samedi 21, quelque chose comme ça, à Madrid. Donc le classico, c'est le match de foot de l'année qui oppose le grand Barça au grand Real Madrid, qui est regardé par des centaines de millions de personnes à travers le monde. Et donc, comme tous les matchs de foot qui ont eu lieu ce week-end-là, il y avait un hommage aux victimes des attentats. Donc là, l'hommage en question, c'était une Marseillaise jouée au piano dans un stade rempli de 80 000 personnes et un silence de plomb, donc vous imaginez l'ambiance, etc. Arrive la fin de la Marseillaise, un plan sur Benzema, qui, comme tous les footeux qui se respectent, crache par terre. Il n'en fallait pas plus pour que Morano, Ménard et consorts s'en prennent à lui. Regardez, c'est scandaleux, il a craché sur la Marseillaise, il méprise les victimes des attentats. Alors que le même Karim Benzema, pendant tous les attentats, et je le suis sur Facebook, avait publié beaucoup d'hommages, de photos sympathiques, etc. pour montrer sa solidarité, comme l'ont fait des tonnes de célébrités sportives ou artistiques. Et donc, voilà, c'est pour vous dire que j'avais pas fait de conclusion, ma chronique s'arrête là pour le moment. Mais voilà, je pense que ça suffit à susciter quelques réflexions sur le traitement médiatique en général, et celui des chaînes d'infos en particulier.
Et les réactions à l'image, enfin, détournement d'image.
Oui, voilà, parce qu'évidemment, si Benzema a craché par terre, c'est pas parce que
ça avait pas de lien
avec il crachait absolument pas sur la Marseillaise ni sur la France, il crachait par terre parce que les footballeurs, quand ils sont sur un terrain de foot, ils crachent.
Un petit truc coincé dans la gorge.
Voilà, plutôt que de le garder pendant les 15 premières minutes du match, et ben, il l'a évacué tout de suite et manque de peau. Bon, après, c'est con, hein, il aurait peut-être pas dû faire ça, il aurait peut-être dû le garder 5 minutes de plus, son molar, mais, mais voilà, il suffit d'un crachat pour qu'on revienne à le pointer du doigt. Alors voilà, il symbolise tout ce que Ménard, Morano et qu'on s'en aime pas, hein. C'est l'immigré qui réussit, qui est un peu désinvolte, qui chante pas la Marseillaise, et qui donc forcément, d'ailleurs en plus qui des fois marque pas de but en équipe de France, donc forcément il stigmatise toute la haine qu'on reçoit aujourd'hui. Moi c'est pas mon footballeur préféré, mais à chaque fois que je l'ai liké sur Facebook justement pour ça, parce qu'il symbolise à tort
si Morano et Ménard l'attaquent, il devient forcément sympathique.
Oui, forcément. Hein,
sur le traitement médiatique, ça me fait penser une fois à une de tes chroniques, Guillaume, où tu disais le mort kilomètre, que le choc, parce qu'on disait, en Syrie, il y a eu entre 200 et 250 000 morts. C'est 10% de la population. C'est comme si nous, on avait eu 700 000 morts en l'espace de moins de 10 ans. C'est phénoménal. C'est énorme, quoi. Quand on se le dit rationnellement, c'est phénoménal. C'est complètement scandaleux ce que je vais dire là, mais ça mériterait une fichesse. Mais nous, 130 morts en comparé, c'est assez scandaleux, mais c'est assez dramatique. Mais pendant 2 semaines, et on sera choqués, nous, on va changer tous les Français. Leur mentalité, ça va changer leur mentalité, leur fonction de pensée, parce qu'il y a eu 130 morts, mais 250 000 morts dans un pays à 6000 bornes, ça. Ouais,
et on fait pas une minute de silence. 300 morts sur une plage en Italie, on fait pas de minute de silence. Sinon, on se croit pas tout le temps.
Il y a un ratio en plus, est-ce qu'ils nous ressemblent ou est-ce qu'ils nous ressemblent pas physiquement?
Oui, oui. Parce que même s'ils sont loin, s'ils sont aux États-Unis, ça nous touche plus que s'ils sont en Palestine, alors que c'est à 4 heures d'avion.
Ouais. Et la façon dont tu prends la photo, le fait qu'il n'y ait pas d'image, quand tu fais des frappes chirurgicales à coup d'avion, t'as pas beaucoup de photos, quoi. On me disait, ça.
Alors, je rebondis sur l'histoire de la photo et de l'image par rapport à Benzema. Si vous avez un truc à retenir de cette émission, les enfants, écoutez bien, une image n'est jamais une preuve en soi. On l'a vu diffusé après les attentats, il y a eu plein d'images de conneries qui sont passées, quoi. Et retenez ça, une image n'a aucune valeur en soi, c'est l'interprétation qu'on en fait et l'explication qu'on en donne. On a vu des rues de on postait des rues de Paris complètement désertes. On disait, regardez, les Français ont peur, les Parisiens ne sortent plus. Sauf qu'il y avait, les arbres étaient verts autour des Champs-Élysées. Donc la photo avait été prise au mois d'août, le matin, quand les gens sont, circulent pas encore. Et il y a eu plein de trucs, là. Il y a eu, alors, ça, c'est anecdotique, mais il y a eu des trucs beaucoup plus dégueulasses. On voyait des jeunes, hilars, en train d'applaudir, sauter de joie avec les drapeaux algériens. En disant, regardez, les jeunes des banlieues font la fête parce qu'il y a eu des Français tués. Alors que cette image-là datait de la Coupe du Monde et les jeunes fêtaient la victoire de leur équipe. Ne croyez jamais les images. Donc, voilà. Conclusion, ne regardez pas BFM TV.
Voilà.
Aussi.
Une opinion.
Des chats comme les Belges.
Voilà. Une opinion, ça se construit, ça prend du temps, ça se travaille, et ça prend beaucoup de temps. Et analysez, croisez vos sources, réfléchissez, discutez autour d'un canon. Mais, voilà, prenez
un canon de rouge, hein,
pas de rouge. Voilà. Bon, on est un peu pressé, il y a encore du monde derrière. Tu voulais nous passer une
oui,
petite
j'ai
musique.
Eu la chance d'avoir une copie pirate du dernier album des Ennuis Commencent. Je le dis pas trop fort parce que c'est illégal. Alors, on écoute un morceau dont je ne connais pas le nom parce que c'est une copie pirate, donc il n'y avait pas le nom des pistes. Donc c'est la deuxième.
C'est les Ennuis Commencent.
Rouge, il crie, il morde et il s'enfuit.
C'était donc Les Ennuis Commencent avec la piste 2 de leur nouvel album. Par contre, je connais comme le nom, c'est Love O'Rama. Donc, c'est des chansons d'amour. Ça nous fera sans doute du bien à tous par les temps qui courent.
Ouais. En même temps, c'est souvent des chansons d'amour qui chantent les.
Oui, en rockabilly, oui. Même Johnny, il fait du rockabilly maintenant, je ne sais pas si vous avez entendu.
Ah non, moi j'ai entendu que s'il n'était pas chanteur, il serait parti en Syrie. Moi, ça ne me dérange pas. Hein, que,
oui. C'est pas du tout l'âge ou la trouille qui l'a empêché de le faire.
Mais moi, c'est pareil, hein, je serais bien parti en Syrie, mais j'ai vélo.
Ouais.
J'ai
une sorte de vélo. Mais bon, t'as une campagne électorale.
Et puis, exactement. Ouais, voilà. Bon, maintenant, alors. Maintenant, bah, c'est Amanda hein, qui va nous parler d'un truc. Non, c'est non, c'est Romain. C'est... Ah mais oui, c'est Amanda, j'ai pas l'habitude. Hein,
il est jamais là, lui.
Bon, d'accord. Bon enfant. Ouais.
Oui.
On t'écoute, mon Romain.
Donc cette chronique s'appelle Vente d'armes et privatisation de la sécurité. En effet, dans cette période un peu morose, je voulais vous parler de personnes pour qui tout va bien et même mieux. Merci pour eux. Ces personnes sont les fabricants d'armes et les services de sécurité privés. Donc au début, je pensais pas vous parler de ça. Et ce matin, j'ai entendu, donc en écoutant la radio publique qui arrive le mieux à nous expliquer qu'il faut tout privatiser, donc France Inter, donc, à 6h30, un monsieur qui a été présenté par Patrick Cohen comme le monsieur sécurité du MEDEF. Donc sur France Inter, donc ce matin, Patou le Gentil recevait Claude Tarlet, qu'il a eu le courage de présenter lui-même comme le monsieur sécurité du MEDEF. Donc la première question de mon Patrick, sur un air très inquiet, depuis les attentats, que viennent vous demander toutes les entreprises qui ont un besoin de sécurité? Et là, monsieur Claude Tarlet, sur un ton rassurant, paternaliste, limite institutionnel, nous explique que toutes les entreprises et les particuliers se sentent en grand danger, et ainsi de suite. Donc déjà, là, sur une interview de 6 minutes, en 30 secondes, on nous pose un paysage de peur. Avec un monsieur qui vient nous rassurer. Donc derrière, on a un Patou qui nous dit, en gros, « Putain, mais ça craint, vous allez embaucher des tocards parce que la demande explose en termes de sécurité. » Et là, Tarlet nous dit, « Non, ne vous inquiétez pas. On demande juste de pouvoir faire bosser à fond les gars qu'on a déjà. » C'est-à-dire qu'on ait des dérogations pour pouvoir les faire bosser bien au taquet. Patrick Cohen n'a pas eu l'idée de se dire peut-être qu'au bout de 60 heures, quelqu'un qui fait de la sécurité peut avoir la gâchette un peu plus facile qu'au bout de 30. Donc, une journaliste rétorque qu'il faudrait vachement bien connaître les gens qu'ils embauchent. Et là, mon Tarlet lui rétorque « Oui, bien sûr, d'ailleurs, on est très sérieux sur ça, hein. On va demander à l'État de valider nos miliciens. » Lui, il les appelle pas comme ça, hein. Et donc,
mais... J'étais étonné aussi.
Oui. Donc, mais je crois qu'on a tous levé un sourcil, là.
Mais là, c'est un peu tôt encore.
Tout est reformulé.
L'année prochaine.
Tout est reformulé. Donc, mon Tarlet ravi. Oui, on va pas cracher sur des ressources humaines aux frais de l'État, bien sûr. Nous, on monte nos petites entreprises. L'État va s'occuper de nous faire le recrutement. En plus, il réclame donc une décharge, une niche fiscale de plus pour la sécurité, que les entreprises puissent être déchargées fiscalement pour la sécurité.
Ouais, tant qu'à faire.
C'est-à-dire qu'on enlève de l'argent public, qui pourrait servir à payer des policiers par exemple, pour pouvoir que des entreprises, celles qui le voudront, celles qui le pourront, celles qui auront intérêt, puissent mettre tout autour de leur joli bâtiment des gens en armes. Patrick a une légère velléité justement sur l'armement. Tarlet arrive à tortiller du cul pour lui dire que « Mais non, on va pas tous les armer, bien sûr. » Subtilement derrière, il nous fait comprendre qu'il aimerait à ce qu'on crée une classe de super agents formés, bien sûr, qui pourraient avoir des armes. Et là où le verre commence à rentrer dans le fruit, c'est quand Monsieur Tarlet commence à nous expliquer que ses services de sécurité travailleront en collaboration avec la police. C'est-à-dire que l'idée, ça va être un peu de créer comme des cahiers des charges, comme voilà, c'est le début de la privatisation. On est en train d'assister en direct, si ça marche, si mon Hollande galope, on est en train de galoper justement vers la sécurité privatisée. Donc voilà, j'ai bien aimé à la fin de ce sujet, donc de 6 minutes, qui était très court, une interlude juste ouverte au lobby de la sécurité privée. À la fin, le sujet suivant était les métiers les plus corrompus. Et Edgar Morin a eu le trait d'humour de dire oui, les animateurs de la matinale. J'ai trouvé ça, je sais pas s'il l'a fait exprès, mais bon. Et voilà.
Donc tu veux nous dire que Hollande et MEDEF vont nous faire bientôt regretter les policiers?
À mon avis, ils risquent non seulement d'ici 10 ou 15 ans de nous permettre d'avoir des armes en France, ça va venir petit à petit, privatiser la sécurité.
Mais comme l'a justement dit Donald Trump, si les mecs au Bataclan, ils avaient eu des flingues, ça ne serait pas passé comme ça.
Exactement.
C'est pas que Donald Trump qui le dit. Malheureusement, il y a beaucoup de politiques de droite et juste les personnages connus de droite, comme j'ai loupé le prénom, politiques de droite qui
en France,
qui aux États-Unis. Qui sort ces types de conneries, hein. Justement, j'ai eu une actu ce matin, au Texas. Il y a donc les pros porte d'armes, les gens qui sont là avec leurs mitraillettes, qui ont le droit à l'avoir, ok, devant une mosquée, oui, qui attend. C'est pour protéger la population des islamistes.
Oui. Mais d'ailleurs, même les démocrates, est-ce qu'en Amérique, toi qui connais mieux, est-ce qu'en Amérique, un démocrate pourrait être élu sans le soutien de la NRA? Je veux dire, ils ont tous le soutien
de la NRA. C'est la question que tout le monde se pose.
Même un Obama, même Clinton, pourra pas dire trop de mal du port d'armes et pourra pas remettre le premier amendement.
Obama, pour commencer à en dire du mal, il a attendu d'être à la fin de son deuxième mandat et en sachant qu'il n'en aurait pas un troisième. Ouais. Mais au moins, il l'a dit.
Il dit beaucoup de choses en ce moment.
Oui. Il est bien depuis qu'il est sur le...
Depuis qu'il a débuté son deuxième mandat, il est génial. Ouais.
Je sais pas si ça va aider Hillary Clinton, tout ce qu'il est en train de dire, mais.
Bon, si les Français avaient eu des armes, peut-être que les terroristes n'auraient pas fait autant de morts, mais il y aurait 20 000 morts par an en France,
oui.
par des bavures, des suicides, tout ça, ouais. Donc finalement, on y gagne encore, hein, pas avoir d'armes.
Et puis en plus, c'est une culture générale. Je veux dire, c'est comme là, pour apaiser là, l'enclave dans laquelle on est avec ces terroristes, je veux dire, il n'y aura pas de solution radicale, mise en place, que le lendemain du décret d'application, les gens arrêtent de faire péter des bombes. Mmh. C'est un mouvement de fond qui est très très profond, qui vient de multiples facteurs, nos banlieues, nos jeunes qui sont facilement manipulables, des banlieues de la planète entière qui ne savent pas lire, manipulés par des cadres qui sont écœurés de la politique internationale, parce qu'on peut être écœuré. Je ne voudrais pas que ce soit mal interprété ce que je vais dire, mais en se mettant à la place de quelqu'un d'éduqué des pays du Moyen-Orient, quelqu'un qui aurait un regard vraiment partiellement objectif, s'il tombe dans de mauvaises mains, je pense que même quelqu'un de très intelligent peut être facilement manipulable dans le sens de... Parce que le djihad, l'islam sert à cristalliser des révoltes beaucoup plus impressionnantes que ça. Je suis sûr que sur les 60 000 combattants de l'État islamique, il y en a une grosse part que l'islam, bon, c'est un moyen... L'islam sert à cristalliser toutes les colères. Ça cristallise là-bas.
Et puis pour revenir sur ce que tu disais, que c'était un mouvement de front qu'il fallait pour éviter ce type de problème, je ne sais pas si c'est utile de bombarder la Syrie comme on le fait aujourd'hui, mais je suis persuadé que ce n'est pas avec ça qu'on va résoudre la situation. Et que tu citais Jaurès tout à l'heure, voilà, Jaurès c'est le pacifiste. Quoi.
Oui, parce que est-ce que là on parle, là je reviens sur mes copains gauchistes qui disent voilà, c'est une réaction à l'impérialisme occidental, mais pas que. Enfin, on dit ouais, Daesh, beaucoup disent ouais, Daesh c'est le produit de, c'est les Américains qui l'ont créé, machin, tout ça. Non, non, ils ont aussi leur autonomie propre. Et ça n'expliquerait pas, par exemple, les attentats qu'il y a eu en Tunisie. C'est pas l'impérialisme tunisien qui est responsable de ça. Comme il y a eu des attentats au Danemark, c'est pas l'impérialisme danois au Moyen-Orient qui a fait qu'il y a eu des attentats chez eux. Donc
plein de facteurs que des gens savent très bien orchestrer.
Oui, mais comme je disais dans la chronique, il faut le dire que quand même Daesh et les islamistes sont des salauds, ce sont nos ennemis. C'est un groupe fasciste international qui arrive.
Qui
a une haine de la démocratie, hein, tout ce qui est libre, tout ce qui est contestataire, voilà.
Nous, on va continuer à contester, en tout cas.
Oui, voilà. On ne fera pas taire.
Voilà.
Et une dernière chose par rapport aux portes d'armes aux États-Unis, parce que si on fait l'idée est reçue qu'on est vachement plus en sécurité, si tout le monde est armé, c'est faux. Aux États-Unis, en moyenne, il y a 7 morts par jour, et qui sont liés directement à la porte d'armes, dont un enfant. Donc il ne faut même pas un mois pour faire Paris le 13 novembre. Et c'est juste, il s'agit des accidents, même pour les personnes qui n'ont pas d'armes dans leur maison. Moi, je n'ai aucune arme dans la maison de mes parents. Mais il y a des enfants qui chopent une balle dans la tête parce qu'il y a quelqu'un qui tire dans la rue, ou même dans le champ à côté, de là où ils font du sport. C'est arrivé il y a 2 semaines. Il faut vraiment mettre les choses en perspective. Mmh. Voilà. C'est juste, les gens, ils pensent, ah ouais, mais c'est grand, les pays, tout ça. Non, mais 7 personnes par jour. La France, on est prêt pour ça? Ben non. Enfin, je pense qu'il n'y a aucun Français qui voudrait ça ici.
Ça, je ne sais pas.
Il doit y en avoir quelques-uns, quand même.
Les gens qui fabriquent des armes.
Qu'ils ne soient pas majoritaires.
On va écouter un petit jingle pour se rappeler qu'on est toujours sur CFM, qu'on
écoute toujours
les Roquets Rouges. Et puis on va passer à la chronique d'Amanda.
Moi, président de la République, j'ai une très très...
Vas-y, on peut le dire.
Ladies and gentlemen, we got it.
Je croirais chez les bolcheviks.
Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
Nous voilà donc de retour après ce merveilleux jingle pour écouter la chronique d'Amanda.
Il était une fois, dans les années 60 aux États-Unis, qu'une dinde de Thanksgiving s'est échappée du four. Malgré sa malheur d'avoir perdu toutes ses plumes et, évidemment, son rouge à bec, elle savait toujours danser le cabaret. Elle a réussi à choper un des rôles principaux dans le meilleur cabaret du coin. À travers de ses soirées dans la petite salle de spectacle enfumée, elle a pu rencontrer plein de gens, même les personnes mondialement célèbres. Sa plus belle rencontre s'est passée un vendredi d'hiver. Cette soirée-là, pendant qu'elle faisait onduler ses ailes bien blanches et lisses, elle a aperçu le plus bel homme qu'elle n'ait jamais vu. Après le spectacle, elle est descendue de la scène à la Betty Boop, son regard fixé sur cet homme aux yeux bleus et à la barbe blanche. Clope au bec, elle a osé lui demander du feu.
C'est la dinde.
Vous croyez que je fume, moi? C'est un bon plan pour perdre toute crédibilité professionnelle. Je travaille avec les enfants. Vous ne me reconnaissez pas?
Elle Elle insistait. Elle trouvait son charme irrésistible.
Bah dis donc, madamette, tu es tellement délicieuse que j'ai envie de t'allumer, peu importe les conséquences.
Cette petite histoire d'amour est en fait l'histoire de la conception de Black Friday, le vendredi noir. Le fils bâtard américain de la dinde de Thanksgiving, bien farci par le Père Noël, plein comme un œuf. Le Black Friday, c'est le jour où les prix sont censés être au plus bas possible avant Noël. On nous dit que c'est le démarrage bienveillant des fêtes de Noël où tout cadeau de rêve pourrait devenir une réalité. Mais soyons clairs, cette journée n'a qu'un motif, c'est d'amener les gens à consommer toujours davantage. Polluant, injuste envers les travailleurs dans le commerce et même parfois violent, le Black Friday nous prend vraiment pour les dindons de la farce. La première question qu'on me pose, c'est pourquoi Black Friday ? L'origine de la couleur noire dans le titre de Black Friday varie en fonction de la personne qui est en face. Pour ses fans, c'est une question de choix de stylo. En anglais, quand un comptable dit qu'on est dans le noir ou « in the black », c'est pour confirmer qu'une action nous a laissé avec un surplus d'argent. Comme en français, être dans le rouge, in the red, signifie une perte d'argent. Selon cette explication, donc, le nom provient du symbolisme donné à l'encre noire utilisé par les comptables après le Black Friday. Fortement fructueux en profit, les commerçants arguent que, sans cette journée dédiée à la consommation, ils n'arriveraient jamais à faire leurs chiffres avant la fin de l'année. Une deuxième histoire, plus réaliste, explique que ce surnom vient des policiers en Philadelphie qui appréhendaient le Black Friday. Ils décrivaient les rues noires du monde. Entre les embouteillages de voitures et les foules de piétons devant les magasins, c'était toujours un bordel à gérer. Personnellement, le mot « noir » me fait penser à la couleur des sacs poubelles. Car c'est une journée de consommation sans réflexion. Et comme toute chose facilement obtenue et sans valeur dans nos vies, ces achats vont probablement finir à la poubelle. La deuxième question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi Friday ? C'est parce que... Pourquoi vendredi ? C'est parce que ça tombe toujours au même moment. C'est toujours le lendemain de Thanksgiving qui a lieu le 4e jeudi de novembre. À savoir qu'aux États-Unis, le Thanksgiving, c'est un jour férié. Énormément de monde font le pont entre le Thanksgiving et le week-end. Les responsables de la consommation ont bien choisi ce moment pour créer des soldes frénétiques qui ne durent qu'un jour. Le Black Friday, donc, en profite d'un timing parfait. Tout le monde cherche quoi faire et le Papa Noël s'annonce présent.
Honey, I'm home.
C'est pas ça qu'il fallait dire ?
Si, c'est son chapeau qui me fait rigoler. Pour nous faire consommer, tous les magasins sont ouverts, dont certaines pendant 24 heures d'affilée. Les clients font la queue pendant les jours pour être parmi les premiers à entrer en magasin. Même au moment de cet enregistrement, il y a un homme, c'est vrai, qui est en train de faire du camping devant un magasin Best Buy, c'est un magasin d'électronique, qui est là depuis le jeudi 19 novembre pour économiser 280 dollars sur une nouvelle télé qui vaut 400 dollars en temps normal.
Il prend une semaine de vacances, donc il perd son gain, quoi.
À mon avis, il n'a pas de boulot. Bref, donc quand il s'agit de Black Friday, il s'agit de la violence et de l'exploitation des travailleurs. Convaincus de devoir obtenir le meilleur prix possible avec un stock limité, les clients se déchaînent dans les magasins. L'effet de foule est puissant et amène les gens à faire des choses bizarres, comme se battre violemment pour la dernière trottinette, 2012, ou se tirer dessous pour un emplacement de parking, 2013. Depuis sa conception, Black Friday est responsable pour au moins 7 morts, dont 2 piétinés à l'ouverture de magasin, et 98 blessés. Parmi ces victimes, il y a des clients, mais aussi le personnel des magasins. Le gouvernement américain a dû intervenir et imposer une réglementation intérieure aux magasins pour la sécurité des employés lorsqu'un Black Friday. La chaîne Walmart a bien beau se battre contre cette réglementation, malgré la mort d'une de leurs salariés en 2008 qui a incité la création de la réglementation. Revenons à ce timing parfait qui fait que le Black Friday soit si rentable pour les actionnaires et si pourri pour les salariés. Il faut préparer ces méga-soldes qui tuent la mort. Et donc, les salariés sont convoqués pendant le jour férié, sinon une ou deux heures avant l'ouverture qui pourrait avoir lieu à minuit, comme dans beaucoup de magasins de Target, qui est une énorme chaîne aux États-Unis, comme un Carrefour. Sans contrat de travail, sans syndic, ces employés qui sont déjà en grande majorité en situation précaire font tout ce que le patron leur exige. Parce que si tu ne veux pas le faire, on trouvera bien quelqu'un qui veut le faire à ta place. Non seulement chiant, ces rythmes de travail inconsistants et incompatibles avec un rythme normal peuvent avoir des répercussions dangereuses. Comme en 2011, quand une femme qui travaillait chez Target à Miami, en Floride, a souffert un tel épuisement qu'en rentrant de travail de Black Friday, elle a conduit sa voiture dans un canal qui longeait la route. Le Black Friday, ce n'est pas top, mais il y a l'espoir. Pendant longtemps, la résistance à Black Friday a été exclusivement menée par les militants. dans les années 90 et 2000, un mouvement qui s'appelle la journée sans achat, Buy Nothing Day, a été mené par les casseurs de pubs dans plusieurs pays du monde, notamment le Canada et le Royaume-Uni. Si ce mouvement est bien connu dans les réseaux alternatifs, elle n'a pas trop touché le grand public et elle a perdu beaucoup sa force ces dernières 5 ans. Mais à partir du mois d'octobre dernier, il y a une résistance au Black Friday qui monte en force. Cette résistance a été amenée d'abord par le fournisseur d'équipement de randonnée, REI. C'est une marque qu'on disait annoncée qui prévoit de fermer toutes ses 143 boutiques et même la boutique en ligne sur le Black Friday. Il portait un message clair. On préfère que nos salariés et nos clients en profitent du week-end de 4 jours pour aller dans la nature en famille. Ces 12 000 salariés seront même payés pour la journée. Ils ont créé un hashtag opt-outside, donc hashtag choisir dehors en gros, qui a déclenché un ensemble d'actions incitant les gens à passer la journée en pleine nature. Ce message d'un Green Friday, c'est ce que je propose, Green Friday, a été répété par les parcs régionaux de l'État de Minnesota. Ils ont proposé l'entrée gratuite au parc pendant cette journée-là. Les parcs en Californie ont suivi l'exemple. D'autres sociétés privées ont décidé de fermer pour la journée et certaines se sont engagées à payer les salariés. Donc après des années d'une consommation de folie, je trouve cette initiative géniale et je le soutiens à fond. Le fils bâtard de la dinde de Thanksgiving et le papa Noël commencent à vieillir et à mal vieillir. Il aurait dû peut-être passer plus de temps à l'air frais.
Ça, c'est une dinde parce que moi, la première fois que j'ai entendu parler du Black Friday, c'était l'année dernière parce que ça commence à arriver en France. Et moi, ça m'a rappelé le... Comment on dit jeudi déjà en anglais ?
Thursday.
Black Thursday de 1929 qui a été le krach boursier qui a indirectement conduit à la Seconde Guerre mondiale. Enfin, si on résume un peu quand même. Voilà, donc je trouvais ça pas très, très positif comme image. Et aussi, je voulais dire, donc, cette année encore, le Black Friday était censé s'importer en France. Sauf que le Black Friday, donc vendredi noir, en France, le noir, c'est la couleur du malheur. Ça rappelait quand même vachement les événements du 13 janvier, du 13 novembre, donc un vendredi noir, pour le coup, vraiment noir. Et donc, du coup, je sais, ça a dû avoir lieu, mais sous un autre nom cette année, quand même.
Mais tant mieux, parce que franchement, ces mouvements, complètement créés, comme je viens de raconter, c'est entièrement créé par les actionnaires pour en profiter d'une journée où les gens doivent être en famille. Ou,
c'est,
voilà.
C'est quoi que ça fait déjà à 5000, la première récolte de blé, non, je crois? Là, c'est la première récolte de blé de Walmart, là.
Amis américains, vous qui nous écoutez nombreux aux États-Unis, allez dans la nature, voilà, et ne dépensez pas vos sous
pour le green. Faut...
Non, mais je parle de ça de manière préventative, évidemment. Voilà, think, c'est bon.
Bon, fuck you.
Bon, est-ce qu'on reprend Guillaume quand il a un accent de merde?
Elle a pas le micro, mais putain, elle parle.
On a plus de temps. On nous fait signe qu'il faut s'arrêter, donc on
merci à Katia. Hein.
Merci. Oui,
merci à vous.
Beaucoup. On a fait une émission bien dense. Oui. Bon, la prochaine fois, vous serez que tous les deux.
En tout cas, en attendant, on vous fait des gros bisous et puis à très bientôt.
À bientôt, ciao.
Salut.
Ciao.
Salut.
Je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Quand on tire, on raconte pas sa vie.
Ah, qu'est-ce qui se passe ?
Cessez d'intervenir incessamment, un peu comme le roquet.
This is a revolution sure shot.
There's a war going on outside.
They what?
Oh boy. Oh no.
Les Roquets Rouges sur CFM.